leur chant. Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hors-champ ce soir, seconde émission avec Jacques Rancière. Jacques Rancière, vous êtes au départ historien et puis finalement, au fil du temps, vous êtes devenu philosophe. Philosophe de la pensée de l'art, philosophe de la pensée de l'événement, philosophe aussi de peut-être de l'absence de continuité du monde. Et dans un livre récent que vous avez fait paraître, qui s'intitule « Figures au pluriel de l'histoire », vous revenez sur cette multiplicité de signification de ce que ça veut dire histoire. Histoire aujourd'hui, en 2016, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il n'y en a qu'une?
Il n'y en a certainement pas qu'une. Bon, je crois qu'il faut partir du fait que il n'y a plus aucun sens, je dirais, de aujourd'hui, de l'histoire au sens d'une sorte de signifiant majeur. Il y a eu une longue époque pendant laquelle on a effectivement pensé que l'histoire était une puissance, qu'elle avait une fonction, enfin, comme une fonction, une destination en tout cas, bon, qui était d'accomplir quelque chose comme un projet. Ça a été le projet des Lumières, ça a été le projet de la Révolution, le projet d'une libération. Et bon, c'est quelque chose effectivement qui, je crois maintenant, n'existe plus, ou alors existe à travers des substituts. Bon, effectivement, il y a toujours une espèce de pensée plus ou moins du mouvement naturel des choses, sauf que ça ne conduit plus à la Révolution, ça conduit au triomphe du marché mondial libéré. Mais il y a toujours donc, mais c'est devenu quelque chose comme une espèce, je dirais, au fond, comme de mot d'ordre gouvernemental ou de mot d'ordre de management, quoi, en quelque sorte, aujourd'hui. Cette idée d'un progrès avec une visée. Non, alors, bon...
C'est fini, ça.
C'est fini, ça existe comme... Ça existe comme sa caricature. Non, pas comme utopie, ça existe, je dirais, comme caricature. Aujourd'hui, on est vraiment avec des gens qui vous disent que, oui, ils ont le management du futur. Bon, voilà, que... Et par conséquent, bon, il faut pas que vous justement, vous accrochiez à vos archaïsmes, à vos privilèges, comme ils disent. Bon,
parce mais que ils ne sont pas propriétaires de notre histoire.
Non, mais ils ont dit, bon, en gros, je dirais, il y a une espèce de double jeu. D'un côté, on vous dit, bon, bah, l'histoire, c'est fini, c'était, bon, les vieux grands récits, bon, voilà, maintenant, c'est fini, regardons la réalité, bon, bah, on fait des trucs, dans 6 mois, ça peut-être marcher, dans 6 mois, on corrigera, on verra comment vont les indices, et ainsi de suite, mais en même temps...
L'idée de progrès, à votre avis, elle est ruinée?
L'idée de progrès, je pense que, enfin, en tout cas, oui, enfin, de toute façon, elle a toujours été une idée problématique. Bon, j'ai un petit peu essayé d'être de ceux qui l'a creusé, et notamment en rappelant la grande polémique de l'émancipation contre le progrès, qui était la polémique donc de Joseph Jacquetot, opposant justement l'émancipation des hommes à l'idée d'une sorte de progrès un petit peu de l'humanité. Donc, oui, je pense que aujourd'hui, on a donc d'un côté cette idée que, bon, on vous dit, il y a plus d'histoire, il y a plus de progrès, et puis on le progrès, bon, on voit bien ce qu'il est devenu. Il est devenu quelque chose comme une chez ceux qui s'en réclament, si on pense à tous les gens qui se réclament aujourd'hui des Lumières, par exemple, quoi. Bon, c'est devenu, en fait, bon, un mot d'ordre qui est entièrement un mot d'ordre, bon, conservateur ou réactionnaire, qui consiste à dire qu'il y a des gens qui sont, et qui sont, on pourrait dire, pour l'éternité dans le camp du progrès, et des gens qui sont, bon, pour l'éternité dans le camp de la réaction. Donc finalement, l'idée même du, bon, on a eu une idée, effectivement, que petit à petit, à un moment donné, les peuples arrivaient chacun à son tour, chacun à son rythme, vers une espèce de mode de vie commun, quoi. Et maintenant, je dirais que lorsque les gens évoquent le progrès, c'est pour dire que, bon, il a eu lieu, quoi, que nous, on en est les héritiers, et puis que, bon, bah, les autres, qui se débrouillent et qui croupissent un petit peu de leur marécage, quoi. C'est à peu près, je dirais, le niveau du discours intellectuel élevé qu'on entend aujourd'hui.
Donc le philosophe historien que vous êtes est là pour déconstruire les mythologies ou est-ce qu'il est là pour nous alerter? Parce que quand on lit vos derniers bouquins, on se dit qu'il est plutôt là pour nous alerter sur ce qui nous arrive. Est-ce qu'on peut vivre dans un pays sans histoire, avec des gens à qui on n'assigne aucun destin?
On peut toujours te dire qu'il vaut mieux être en un sens sans histoire et sans destin qu'avec certaines histoires qu'on vous impose. Mais cela dit, je ne pense pas qu'on soit vraiment dans un monde sans histoire. Il y a une espèce de guerre des histoires, on peut le dire, quoi. Bon, j'y ai participé moi-même. Bon, les révoltes logiques y ont participé. Bon, on travaille comme historien. Enfin bon, avec tous les guillemets qu'on veut y a participé. Bon, il y a une guerre des histoires qui a prolongé un petit peu les mouvements des années 60-70, quoi. Oui, dont on peut dire que, bon, elle a été perdue. C'est-à-dire, je veux dire que une certaine histoire qui était quand même pas une histoire nécessairement de progrès, mais en tout cas une histoire, je dirais, comme déterminée par les mouvements de l'émancipation. Bon, bah, cette histoire-là, je dirais qu'elle est perdue. Enfin, non, elle n'est pas perdue. Mais je veux dire que, bon, il est clair qu'elle a été fortement réprimée, quoi. Et bon, on voit tout ce qui s'est passé depuis 30 ou 40 ans, on voit que lentement, un petit peu, tout ce qui était les éléments d'une histoire, malgré tout, de l'égalité, par exemple, ont été entièrement, disons, combattus sur tous les plans. Bon, on est parti de, bien sûr, la critique de la Révolution, le goulag, et puis la Révolution française, où, en fait, ça préparait le goulag, et puis on est venu nous dire que, bon, l'anticolonialisme et l'antiracisme, c'était en fait une nouvelle forme de totalitarisme, bon, et ainsi de suite. Et voilà, on est dans cette situation, je peux dire qu'il y a eu une guerre, ou une guerre de 30 ou de 40 ans, sur, au fond, de quelle histoire nous sommes les héritiers. Et bon, je veux dire que, bon, je dis pas du tout que l'histoire dans laquelle je me reconnais a disparu. Je dis que bon, effectivement, en tout cas, elle a été minorisée et qu'il y a eu une espèce quand même de fantastique réaction, ce que j'ai appelé une fois une fantastique contre-révolution intellectuelle, bon, pour imposer effectivement une contre-histoire, disant que tous ceux à quoi on avait cru, pas seulement la révolution à venir, mais la révolution du passé, un petit peu tous les signifiants égalitaire, que tout ça était tout signifiant de liberté, tout ça était extrêmement dangereux, amener le triomphe du marché, amener le totalitarisme, amener le terrorisme. Voilà, on est dans cette situation là où font tout ce qui a été attaché à une espèce de tradition révolutionnaire, bon, et battu en brèche. Bon, je suis tout à fait frappé, j'ai été voir cette très belle exposition, bon, Hubert Robert au Louvre, quoi. L'exposition est superbe, mais j'ai en même temps très très frappé par la manière dont, en quelque sorte, Hubert Robert devenait aussi comme une espèce de témoin de cette face noire, comme ça. Il y a une grande salle sur Hubert Robert et le vandalisme révolutionnaire. En fait, on voit qu'une seule destruction, c'est la destruction de la Bastille. Bon. Mais en même temps, il y a cette idée très forte, effectivement, de, malgré tout, de cette espèce de combat très fort qui continue, quoi. Bon, en l'occurrence, pour dire, bon, la Révolution française, bon, ben, c'est vraiment l'horreur, quoi.
Vous voulez dire que des maîtres intellectuels, notamment dans le domaine historique, dans le domaine sociologique, dans le domaine philosophique, ont finalement réussi à confisquer une vision de l'histoire pour nous l'imposer en écartant toute possibilité d'idée d'émancipation des peuples qui se trouvent dans notre propre passé comme modèle, et que maintenant cette histoire, elle est devenue dominante intellectuellement.
Elle est intellectuellement dominante. Encore une fois, bon, je dirais que le fait qu'une
bon, tout soit ce qui peut venir de la révolution, tout ce qui a pu être aspiration révolutionnaire depuis 1789, en passant par 1830, 1848, la Commune, etc. Alors qu'on pouvait y trouver des traces de possibilités, d'élan pour nous vers plus de démocratie. Tout ça est effacé.
C'est pas effacé. Je pense que ça vit encore, qu'il y a encore des gens, bon, ne serait-ce que ceux qui se réunissent place de la République, qui le prolongent, ou bien tous ceux effectivement qui se sont réunis sur d'autres places ces dernières années, bon, qui le prolongent simplement. Et je peux dire qu'au plan de ce qu'on appelle l'opinion, voilà, et au plan, on peut dire, de la vie intellectuelle et culturelle, dans son un aspect dominant, oui, ça a été extraordinairement réprimé.
Alors, est-ce qu'on n'assiste pas justement à un moment où Il y a une sorte de réveil et de lassitude des institutions dites représentatives de la démocratie. C'est la question qu'on peut se poser. On va écouter Frédéric Lordon. C'était le 26 novembre 2013 à Orchamps.
Le Front National, avec à sa tête Marine Le Pen, est devenu d'une habileté stratégique redoutable et est en train de capter à peu près tous les thèmes de gauche, tant et si bien que la gauche critique, tétanisée à l'idée du stigmate extrême-droitier du Front National, abandonne les uns après les autres tous les thèmes que pourtant elle devrait avoir vocation à défendre.
On ne va pas revenir à une monnaie nationale,
et pourquoi
même,
pas.
À une fermeture des frontières.
Et pourquoi pas ? Mais non, justement, c'est précisément là l'amalgame contre lequel
vous
il faut résister.
Européen.
Mais ça, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire être européen ? C'est ça, ça serait ça la question.
Ça veut dire vivre dans cet espace.
Ah, mais vivre dans cet espace
économique.
Ah, vivre dans cet espace.
Hélas, pas assez intellectuel ni culturel,
ah oui,
ni diplomatique,
pour le...
ni
oui.
militaire.
Bah, pour le coup, vous avez raison. Vous voyez donc, vous avez dit vous-même qu'il y avait plein de manières d'être européen. Alors moi, si la définition d'être européen est vivre dans le cadre du traité de Lisbonne, c'est-à-dire dans le cadre de la libre circulation des capitaux, dans le cadre de libre-échange, dans le cadre de la Banque centrale indépendante et des politiques d'austérité qui sont déterminées par le jeu mécanique des traités, si ça c'est être européen, je n'ai aucun mal à dire que je ne le suis pas. En revanche, évidemment, il y a, grâce au ciel, plein d'autres manières d'être européen.
Alors, épuisement des possibilités de la représentativité démocratique, réveil de minorités, est-ce que un avenir de la... du recommencement ou de la réinvention de la démocratie est-elle possible,
bon, alors
Jacques Rancière?
Oui, bon, je crois qu'il y a beaucoup de, bon, il y a beaucoup de problèmes. D'abord, par rapport à ce qu'on a entendu, bon, je dirais que le Front National ne fait pas que récupérer, disons, des doutes quant à l'Europe, mais le Front National récupère aussi toute une série de thèmes qui lui ont été offerts par une pensée qui dit de gauche. C'est pas vrai qu'il y ait simplement la gauche qui est abandonnée puis le Front National qui soit occupé, non, qui a occupé la place, non. Ce qui, à une époque, apparaissait comme être la gauche a fourni largement beaucoup des thèmes qui sont maintenant ceux du Front National, si on pense à tout ce qui s'est élaboré autour de la République, la République, la laïcité, l'identité française. Bon, ben ça, c'est pas des questions de place vide, c'est pas des questions de choses abandonnées par la gauche, mais finalement, bon, ben, que la gauche aussi dit. En gros, entre le discours de Valls et puis le discours de Marine Le Pen sur l'identité nationale, bon, il n'y a pas des différences très, 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 très considérables.
Ah, ben vous y allez, là.
Ben, non, mais je pense que, oui, enfin, je pense qu'effectivement, on va dire, de toute façon, on peut dire que la source, à peu près, bon, et la source est à peu près la même, quoi, certains types.
Mais Valls, Marine Le Pen, c'est quand même pas le même combat.
C'est pas le même combat du moment où les gens de toute façon veulent la même place, ça peut pas être le même combat. Mais en gros, je veux dire que bon, il y a une espèce de transformation justement d'un certain nombre de valeurs dites républicaines, universalistes, laïques, bon, qui sont devenues des vulgaires notions, bon, identitaires, racistes et juste destinées effectivement à stigmatiser les gens qui se posent en représentant des Lumières et puis ceux qu'on déclare
bon. Là, vous faites allusion, par exemple, au propos de Manuel Valls, disant « comprendre, c'est excuser ».
Enfin, entre autres, mais il y a bon toute une espèce de valorisation, d'une sorte d'identité du français universaliste en quelque sorte, dire biologiquement. Enfin, on a fini par nous dire en gros qu'on avait en nous le gène du cartésianisme, de l'universalisme, du rationalisme par le fait vraiment que on était né ici. Et bon, même des gens qui sont pas nés ici comme Manuel Valls s'en sont emparés. Donc bon, il y a cet élément là, bon, qui je crois est très fort et que bon, en gros, sur ce plan-là, il y a pas de grosse différences. Bon, comme on sait qu'il n'y a pas de grosses différences entre certains journaux d'extrême gauche, certains journaux d'extrême droite, enfin, extrême gauche, qui croient d'extrême gauche, certains journaux d'extrême droite sur la défense de nos valeurs, disons, nationales. Bon, voilà, ça, je pense que de même, on n'a pas tellement de différences au niveau de nos représentants politiques. Non, pour en revenir à la démocratie, je crois que le premier point, malgré tout, c'est de recreuser la différence entre démocratie et représentation. C'est-à-dire, c'est, même si on est dans des système effectivement construit sur le système électoral. Et bon, je pense qu'on ne peut repenser la démocratie que si on la pense comme étant à l'origine complètement étrangère, sinon opposée, bon, à la représentation. La représentation a été, on va dire, historiquement, la représentation des élites, c'est-à-dire une manière dont les élites se reproduisent elles-mêmes ou s'élargissent un petit peu elles-mêmes. Donc voilà, alors je pense que bon, il faut partir absolument de cet écart, et bien c'est un petit peu cet écart qui a été manifesté par les mouvements des places, les mouvements Occupy Wall Street, ces derniers moments. Je crois que oui, il y aura bien un renouveau de la démocratie si on peut penser l'existence de forces qui soient des forces affirmative d'une capacité commune, qui a une capacité égale et qui soit à l'écart du système électoral. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est fondamental.
Mais alors, comment faire pour pouvoir concilier la possibilité de la représentativité de nous tous, le peuple, par rapport à un fonctionnement de la démocratie qui manifestement s'épuise, mais n'a pas les forces, en tout cas en Europe, de pouvoir renouveler ses propres méthodes, son socle?
Non, je dirais d'abord, c'est pas la démocratie qui s'épuise, parce qu'il faudrait qu'elle soit là pour s'épuiser. Ce qui s'épuise,
vous pensez qu'on vit pas en démocratie là en ce moment?
Non, je pense qu'on vit pas en démocratie. C'est-à-dire que la démocratie n'est pas en quelque sorte comme le lieu dans lequel on serait justement, naturellement. On essaie toujours d'identifier un peu au fond le fait de vivre dans des pays qui ont un niveau élevé, relativement élevé, avec une espèce de liberté qui en quelque sorte naîtrait un petit peu d'un mode de vie. Non, je crois que c'est pas ça. Bon, la démocratie, c'est d'abord des pratiques, c'est d'abord des modes d'action. Donc on n'est pas en démocratie. En gros, on peut dire que si on pense en termes de système gouvernemental, on est dans des oligarchies. Ces oligarchies organisent des élections. Oui, bien sûr. Mais fondamentalement, le fonctionnement est oligarchique, c'est-à-dire que c'est quand même des petites équipes de politiciens professionnels qui se renouvellent par quand même cooptation quand ce n'est pas vraiment par droit de naissance. Et voilà, ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne en plus maintenant aujourd'hui sous l'espèce de chapeautage d'institutions européennes où il y a une commission européenne mais qui n'est même pas élue. J'étais quand même très très frappé dans le cadre du traité européen, pour prendre les choses d'un autre bord que Frédéric Lordon, qu'il y avait une seule chose qui n'était pas dite à propos des membres de la commission, c'est finalement comment ils étaient choisis. C'était la première fois en quelque sorte que dans un cadre qui se disait démocratique, on dit il y en a tant par pays, mais on ne dit pas comment ils sont choisis. je crois que c'est comme un signe qu'effectivement, malgré tout, on est dans un système fondamentalement oligarchique. Et c'est vraiment celui-là, c'est lui qui a un problème, parce que l'histoire du Front National, c'est un petit peu la faillite du système oligarchique. C'est-à-dire qu'on pensait qu'on avait une constitution comme ça, avec un pouvoir de gouverner solide, on peut facilement faire des majorités avec des minorités. Du coup, on va avoir deux grands partis qui se succèdent, qui font à peu près en gros la même politique, en tout cas qui ont le même fonctionnement, et puis tout va bien. Et puis non, tout va pas bien. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'il faut bien penser, c'est que s'il n'y a pas le peuple, et puis on le représente, un système crée un peuple, c'est le contraire, quoi.
Alors le peuple, justement, le peuple, il est au cœur de toutes vos recherches depuis au moins 5 décennies, Jacques Rancière. Ce peuple que vous avez réhabilité, ce peuple que vous avez individualisé, parce que c'est une série d'individus, et à qui vous avez donné légitimité d'existence. Ce peuple qu'on agite beaucoup dans les discours politiques, ce populisme qui monte, comment récupérer les révoltes du peuple et la possibilité de révolte et d'expression du peuple par rapport à ces régimes populistes qui ne cessent finalement de fonctionner au maximum de leurs possibilités dans la plupart des pays européens aujourd'hui, dans une majorité de pays européens?
Oui, alors, bon, je crois qu'il faut partir de ce fait que le peuple, ça, bon, ça n'existe pas. C'est-à-dire que le peuple, c'est toujours le produit d'un certain nombre de pratiques. Ça peut être des pratiques, disons, matérielles, ça peut être des pratiques de discours qui sont aussi des pratiques matérielles, mais en tout cas, un peuple, c'est toujours construit par des institutions, par des actions, par des discours. Voilà, donc, il n'y a pas le peuple, et puis on se demande comment on va le représenter. Non, il y a une représentation crée un peuple, et oui, alors moi, je me suis intéressé effectivement à des, essentiellement à un certain type de peuple, à un certain type de construction du peuple, quoi. C'est-à-dire construction du peuple, bon, notamment bien sûr dans tout le travail que j'ai fait sur la nuit des prolétaires, bon, par des ouvriers qui changent le sens même d'être ouvrier, parce que bon, ouvrier dans le, pour, à leur époque, bon, ça veut dire, on travaille, on est à l'atelier, on ne va pas s'occuper de ce qui se passe au niveau global, on est dans son petit coin, on n'a pas l'intelligence, on n'a pas la connaissance, etc. Et puis il y a des gens qui disent nous on s'intéresse à tout, nous on a envie finalement de participer à un monde commun. Participer à un monde commun, ça veut dire éventuellement se transformer en poète, se mettre à écrire des vers même si on ne sait pas écrire en prose, mais ça veut dire aussi s'occuper des affaires communes, de décider que un rapport de force dans un atelier, c'est pas seulement un rapport de force dans un atelier, mais c'est deux mondes qui s'opposent. Donc on va créer des associations, on va créer des journaux, on va créer des mouvements qui affirment justement que les gens qui étaient censés être dans le particulier, qui étaient censés être dans un ordre inégalitaire, ils sont des participants égaux à un monde commun. Alors bon, ces gens-là, on peut dire que ils créent un peuple, quoi. Et on le signifie ouvrier, pourquoi il a eu tellement d'importance, parce qu'il n'a pas simplement signifié une condition sociale, mais signifié justement comme une espèce de transformation de cette condition sociale, transformer la façon dont un groupe de gens qui sont en principe relégués à une place se transforme en gens qui parlent pour tout le monde, hein, et qui participent au commun en tant que parlant pour tout le monde, et pas simplement en tant que parlant pour avoir un peu plus d'avantages pour les ouvriers. Voilà, bon, ça c'est un peuple, c'est ce peuple-là auquel je me suis intéressé, qui effectivement est fait de ruptures individuelles. Et bien sûr, on me l'a reproché beaucoup, on me dit « Ah, mais c'est les individus, c'est pas représentatif, ce qui est représentatif, bon, c'est les grandes masses, ceux qui bougent, c'est pas représentatif, ce qui est représentatif, c'est ceux qui bougent pas, bon, et ainsi de suite, quoi. » Alors, bien sûr, quand on raisonne comme ça, on arrive à ce qu'on voit aujourd'hui, quoi, à savoir que, par représentatif, ce qui est représentatif, en gros, c'est ce qui est représenté, quoi. Et ce qui est représenté, on le voit, on l'entend tous les jours.
Alors, comment faire pour renouveler les pratiques démocratiques? On va pas de toutes les façons, à moins qu'une révolution advienne très vite. Certains, d'ailleurs, l'espèrent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous qui vous intéressez depuis très longtemps à la possibilité de la marginalité comme expression de notre vivre ensemble, comme possibilité de mieux vivre ensemble, on voit bien qu'effectivement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, avec des mouvements un peu partout dans le monde, il y a une aspiration à être, pour parler comme Gilles Deleuze et Guattari, à être rhizomique, c'est-à-dire... on est tous égaux, on part de notre égalité, et puis à partir de cette égalité, on peut s'adresser, y compris aux tutelles les plus hautes sur le plan de la représentativité gouvernementale, pour exprimer notre désir.
Oui, bon, je crois qu'il y a quelque chose, à la fois qui est fondamental dans tous ces mouvements, et au fond qui est quand même, qui reste problématique, pourquoi ? Parce que il y a un aspect effectivement de refus total de toute hiérarchie, qui a quelque chose d'extrêmement fort, on peut dire comme principe, mais en même temps le problème, c'est qu'il ne suffit pas simplement d'être tous égaux. Il ne suffit pas simplement que, disons, dans une assemblée...
C'est déjà pas mal de se réapproprier l'égalité.
Ah, c'est absolument très bien. Mais c'est vrai que, quelquefois, on se dit, oui, mais l'égalité, c'est pas seulement le fait que tout le monde puisse parler. Qu'il n'y ait plus de leader qui parle, formidable. Moi, si vous voulez, je me souviens d'être rentré comme ça, en Hollande, dans une université occupée. C'était il y a 2 ans, je crois. Alors, je rentre là-dedans, je vois une grande banderole. C'était marqué « Consensus, no leaders ». Je dis, bon, no leaders, je suis d'accord, mais consensus, je suis pas absolument d'accord, quoi, je veux dire, parce que, justement, on n'est pas là simplement pour être une espèce de regroupement de gens qui sont tous égaux, qui se respectent tous, mais aussi on est là pour créer une forme de dissensus, bon, par rapport à l'ordre dominant. Et au fond, le problème, et ça se fait pas comme ça, ça fait pas miraculeusement, ça tombe pas du ciel, c'est est-ce que les égaux peuvent arriver à se définir quelque chose comme une volonté commune? Parce qu'au fond, la question, que je dis toujours aux gens qui me disent mais qu'est-ce qu'il faut faire, je leur dis toujours bien moi j'en sais absolument rien quoi, mais enfin en tout cas si je peux avoir quelques petites idées, mais en
enfin,
tout cas
vous savez ce qu'il faut pas faire.
Je sais ce qu'il faut pas faire. Non, je pense que je dis toujours aux gens qui me demandent mais alors qu'est-ce qu'on va faire, il faut d'abord que vous sachiez exactement ce que vous voulez, quoi, c'est-à-dire bon finalement on est là bon quelques centaines, quelques milliers, bon, qui veulent faire quelque chose de l'égalité, avec l'égalité, mais bon, il y a tout un travail, je dirais, comme au fond de aussi, pour que cette volonté commune arrive à se définir, à dire voilà, bon ben, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on poursuit, c'est comme ça qu'on va agir. Et au fond, c'est toujours le problème, parce qu'on a toujours ce modèle complètement débile où il y a bon spontanéité et puis organisation. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, je veux dire, parce que le problème, c'est le problème de la dynamique même d'un mouvement. Est-ce qu'un mouvement qu'on peut dire spontané, avec beaucoup de guillemets, peut se transformer en mouvement autonome? Parce que c'est ça qui est fondamental aujourd'hui, quoi. Et effectivement, se transformer en un mouvement qui est autonome, ça veut dire transformer en un mouvement qui apprend, au fond, petit à petit, à savoir ce qu'il veut et à se donner les moyens de ce qu'il veut. Et bon, c'est pour ça que je pense que c'est effectivement ce qui a toujours été le problème un petit peu à la fin des occupations, c'est bon bah alors on rentre chez soi, ou bien alors bon bah on fait un nouveau parti gauche de la gauche, et bon les partis gauche de la gauche il y en a un peu partout, bon on en connaît, il y en a y compris chez nous, je dirais que à mon avis c'est pas le bon, effectivement c'est un peu aussi comme un aveu de disons de défaite, quoi, c'est-à-dire que la question c'est oui, est-ce que un mouvement sans leader, est-ce que un mouvement de gens qui veulent d'abord être ensemble des égaux, bon, est capable de creuser sa propre volonté en se transformant justement non pas en institution au sens d'un parti qui va se présenter aux élections, mais en un mouvement autonome qui impose au fond comme ses propres débats, ses propres forums, ses propres objectifs et ses propres modes d'action. Alors bon, tout ça est abstrait, bien sûr, ça reste considérablement abstrait, mais je pense que aussi, bon, par exemple, un tel mouvement doit être capable justement de proposer comme une espèce de transformation, bon, aussi de la vie institutionnelle. Bon, moi, c'est pourquoi j'ai insisté très souvent en rappelant l'origine de la démocratie avec le principe du tirage au sort, quoi. C'est que bon, se mettre dans la tête une idée comme ça, bon, la propager.
Ça, vous êtes pour cette pratique du tirage au sort?
Je suis pour, pour autant qu'elle s'inscrit dans une dynamique. C'est-à-dire que bon, il y a des gens qui vous disent, bon, il y a qu'à mettre le tirage au sort, tout ira bien. Mais je dirais, il n'y a aucune raison que des gens qui sont en place aujourd'hui le mettre en pratique. Ce qui est important, c'est de repenser...
N'importe qui d'entre nous peut administrer la cité.
Bah, apparemment, puisque de toute façon, n'importe qui d'entre nous est électeur. Donc, n'importe qui d'entre nous est censé...
Bon,
est
mais sens... vous n'allez pas revenir sur les principes de l'élection universelle. Vous n'allez pas défendre l'élection censitaire.
Je ne vais pas défendre l'élection censitaire, mais je pense qu'on peut très bien défendre d'abord l'idée, disons, effectivement, de mandats très courts, non cumulables, non renouvelables, avec un contrôle populaire effectif sur les gens qu'on a mandatés.
Et alors, puis, comment
je
comment
pense que très bien qu'on peut aussi très bien avoir, une, par exemple, on a deux chambres... dont une sert en gros à recaser quand même un peu les politiciens à la retraite, quoi. Bon, on pourrait très bien transformer cette chambre de politiciens à la retraite en une chambre tirée au sort. Bon, si on tire au sort les gens qui vont décider la vie et la mort des individus, je pense on peut très bien tirer au sort une assemblée de 200 personnes, et on sait très bien que l'assemblée de 200 personnes tirée au sort est aussi raisonnable qu'une assemblée de 200 personnes, ou plus raisonnable probablement même qu'une assemblée de 200 personnes qu'on a choisi en disant, oh là là, ceux-là, ils ont des capacités. Bon, on sait ce que sont les capacités des gens qui nous gouvernent, des gens qui pensent. Bon, voilà. Et voilà, donc je pense que, oui, bon, alors ça, c'est
le hasard serait une meilleure maîtresse.
Je pense que le hasard doit retrouver son rôle, parce que bon, malgré tout, le mérite quand même extraordinaire du hasard, c'est qu'il se laisse pas corrompre, quoi. Bon, il se laisse pas corrompre et il prend pas d'habitude, le hasard, quoi. Or, malgré tout, bon, ce qui est le cœur, on peut dire, des systèmes oligarchiques qui nous gouvernent, bon, bah, c'est ça, en gros, c'est l'habitude et la corruption. La corruption, on peut être corrompu sans toucher nécessairement des pots de vin directs, comme ça. Bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de politiciens qui touchent directement comme ça des enveloppes de tel ou tel grand groupe.
En tout cas, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de politiciens français qui aient été accrochés dans l'histoire des Panama offshore.
Oui, c'est très bien, mais
c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle.
Bon, alors là, bon, il y a des gens qui pensent que être corrompu est une preuve de compétence, effectivement. Donc, on sait bien que
y compris pour certains électeurs, je ne citerai pas de nom, mais il y a des.
Oui, bien sûr, il s'est imposé petit à petit l'idée qu'effectivement, bon, que si un type est capable de se débrouiller, etc., pour magouiller comme il faut et faire sa fortune, bah, ça prouve qu'il est capable. Et effectivement, mais la question est de savoir quel type de capacité, car au fond, c'est un petit peu ça le problème. Au fond, la politique est fondée sur une capacité complètement, en fait, énigmatique, ou une capacité au commun, ou une capacité commune, Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et au fond, la question, c'est d'arriver à savoir comment ça peut s'incarner. Bon, je pense pas que ça s'incarne de manière satisfaisante dans nos représentants, y compris ceux qui sont d'une intégrité parfaite, mais bon, de toute façon, c'est vrai que le pouvoir en général corrompt, le fait d'avoir le moindre pouvoir sur les autres corrompt, et aussi corrompt l'intelligence. Enfin, finalement, je crois que la capacité même de penser, de juger, s'affaiblit chaque fois qu'on a au fond un pouvoir, et ça on le vérifie partout, quoi. On le vérifie aussi bien dans une commission universitaire, par exemple. Bon, c'est pas un pouvoir énorme, mais on se rend compte que très très vite, finalement, on risque de devenir idiot par la logique même de l'exercice d'une supériorité.
Tout à l'heure, vous disiez, Jacques Rancière, et c'est une très grande partie de votre travail, que les ouvriers, les prolétaires, d'ailleurs, votre ouvrage s'intitule « La nuit des prolétaires » et vous avez évoqué « ouvriers ». D'ailleurs, ces deux mots ont disparu du champ politique, ils ne sont plus prononcés. Mais vous avez dit que les ouvriers, les prolétaires, avaient saisi à certains moments de notre histoire, la possibilité de s'exprimer et de devenir des égaux. Est-ce que vous ne pensez pas que cette possibilité-là s'est éteinte parce que, justement, il n'y a plus d'ouvriers, il n'y a plus de rapport entre la fabrication de l'objet, la possibilité d'expression, y compris dans le travail, même quand il est asservissant, et la personne? Parce que maintenant, on vit dans un monde où l'école blanc, l'administratif, les écrans, le rapport à la fabrication des objets a complètement disparu. Est-ce que ça nous ôte pas la possibilité d'avoir envie de modifier le réel ?
Bon, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, la fabrication des objets, elle n'a pas disparu, simplement, elle a disparu de nos yeux. Bon, ce qui est différent, c'est-à-dire que, bon, finalement, des ouvriers comme au 19e ou comme au 20e, il y en a encore plein. Il y en a en Chine, il y en a au Bangladesh, il y en a au Cambodge. Bon, effectivement, ils sont loin. Mais je dirais que cette production matérielle, elle existe toujours. Bon, elle circule dans une espèce d'énormes containers. Bon, c'est vrai qu'il y a toute une espèce de visibilité du travail qui a disparu. Je pense que c'est ça qui est important. C'est pas tellement le fait qu'il n'y aurait plus d'ouvriers. C'est le fait que, disons, le travail comme une espèce, je dirais, de monde commun. Bon, c'est ça fondamentalement qui a disparu, parce que il n'y a pas de lien direct entre le fait que on fait des choses avec ses mains, donc on a envie de changer le monde. C'est pas ça, quoi. C'est-à-dire, au fond, on a envie de changer aussi ce que font les mains, ce que font les yeux, ce que fait la tête. Et ça suppose effectivement qu'il y ait quelque chose comme de capacités de construire, au fond, la possibilité d'un monde à partir d'une certaine, à la fois d'une certaine place dans ce monde et un désir de changer cette place. Bon, je crois qu'il y avait ça. Donc, bon, j'ai toujours combattu les gens qui pensaient que, voilà, le mouvement ouvrier, ça naissait des ouvriers d'élite qui avaient un bon métier, la fierté de leur métier. Et bon, ça existe un petit peu, mais pas tellement, quoi. Je dirais, disons, ce qui est fondamental, c'est à la fois un certain ancrage, oui, et en même temps une rupture par rapport à cet ancrage. Je crois que c'est ça qui a été important. Et effectivement, je dirais, tant qu'il y a eu une espèce de visibilité aussi matérielle, matériel du travail, il y a eu une visibilité, on peut dire, bon, symbolique du travail. Bon, effectivement.
Et un monde commun.
Oui, c'est ça, bah, du travail comme définissant un monde commun, malgré tout, on peut dire que tout ce qui s'est appelé, bon, socialisme, communisme, bon, aussi le marxisme a quand même été fondé, même avec beaucoup de complexité, de contradictions, sur l'idée, au fond, d'une espèce de condition partagée de gens qui travaillent, enfin, de gens qui changent le monde, quoi, on peut dire. Oui, ça, c'est, bon, effectivement, c'est quelque chose qui, je crois, a un petit peu disparu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'ouvriers dans nos pays, en gros, c'est pour expliquer pourquoi ils votent Front National. Bon, à partir de l'idée que, à partir du moment où on est ouvrier, on devrait être de gauche. Mais non, il n'y a pas de raison qu'on soit, j'ai toujours dit, qu'on soit de gauche parce qu'on est ouvrier. Bon, être de gauche, ça veut dire participer à une certaine construction d'un monde commun. Et il ne suffit pas d'être dans une usine, un atelier, bon, un garage ou que sais-je, pour que ça existe. Non, je crois que c'est effectivement l'idée de... ou la pratique, l'idée à la pratique d'une certaine symbolisation collective qui a un petit peu disparu. Bon, alors on a essayé de changer ça, de trouver des substituts. Bon, on a parlé des précaires comme une nouvelle condition ouvrière, peut-être de laquelle se définirait aussi comme une espèce de nouvelle subjectivité politique. Et on voit que bon, que c'est extrêmement extrêmement difficile. Et voilà, alors, je crois qu'il faut vraiment tenir compte du fait que le travail n'est pas disparu, simplement il est distribué, réparti matériellement d'une manière qui empêche sa symbolisation collective. Bon, autrement, du travail comme au 19e siècle, il y en a encore. Bon, vous allez en Chine, vous voyez comme ça des espèces de petites charrettes, sauf que c'est tiré par un scooter, comme ça, qui vous apportent des cachemires qui ont été fabriqués dans les montagnes, voilà, qui vont être assemblés. Vous voyez arriver comme ça, au fond, des produits de ce qu'on appelait la manufacture à domicile au 19e siècle. Donc je crois qu'il faut tenir vraiment un petit peu les deux bouts de la chaîne, ne pas dire. On est dans un monde de robots, donc il peut plus y avoir de signes de symbolisation collective. Non, on est dans un monde où tout a été, on peut dire, comme distribué, éparpillé, fragmenté. C'est ça un petit peu le problème. Du coup, effectivement, les gens se rassemblent en disant tout est fragmenté. Comment on va faire un peuple? Et c'est vrai que pour eux, c'est un casse-tête. Et il n'y a pas tellement de conseils à leur donner, malheureusement.
Nous allons écouter la voix d'Alexis Tsipras au micro de Daniel Mermet. C'était dans l'émission « Là-bas, si j'y suis », 23 mai 2012.
Όχι, δεν συμφωνώ καθόλου. Είμαστε...
Nous sommes ceux qui font peur aux véritables terroristes, c'est-à-dire aux banquiers, aux détenteurs de capitaux, aux spéculateurs qui gagnent des milliards en bourse et qui conduisent les peuples à la ruine et au désespoir.
Ça, c'est un discours de guerre, ça, c'est un discours de lutte. Est-ce que... ce que vous dites là, pour vous, est symptomatique de ce qui se passe en Europe, au-delà de la Grèce.
Αν βρεθείτε στην Ελλάδα, θα το συνειδητοποιήσετε. Ο ελληνικός λαός βρίσκεται σε έναν.
Si vous étiez en Grèce, vous pourriez constater que, en effet, le peuple grec se trouve engagé dans une guerre de type spécial. Certes, il n'y a pas de morts, mais les victimes se comptent par millions. Ce sont les gens qui sont condamnés à la pauvreté, au chômage, qui sont sans perspective, qui ne peuvent pas rêver. Il s'agit d'une guerre qui est menée par la finance, avec une intensité particulière, en Grèce, mais pas seulement en Grèce.
Nous venons d'entendre la voix d'Alexis Tsipras. C'était en mai 2012. Depuis, on sait ce qui s'est passé. Il est toujours donc actuellement Premier ministre après bien des virevoltes. Que pensez-vous de l'exemple de la Grèce? Pensez-vous que par rapport à cette Europe que vous évoquiez tout à l'heure, Jacques Rancière, la Grèce, qui a quand même, avec son Premier ministre, changé d'avis sur les politiques d'austérité, qui a été obligé de se plier quand même aux règles européennes parce qu'il n'avait peut-être pas d'autres possibilités, pensez-vous que ça soit une manière de revisiter une autre Europe?
Je crois que il faut partir du fait que l'Europe n'a d'existence aujourd'hui que comme un marché. L'Europe n'a d'existence aujourd'hui que comme une puissance
même
financière.
Avec des pratiques démocratiques renouvelées comme l'a fait Alexis Tsipras.
Il a fait des pratiques démocratiques. Bon, il y a eu un mouvement démocratique très fort en Grèce. Bon, il y a eu le fait que ce mouvement a eu à la fois son prolongement, sa récupération et bon, éventuellement son retournement dans la politique donc de Syriza, de Tsipras et de Syriza. Voilà, mais bon, je dirais que ça nous rappelle quand même que malgré tout, si quelque chose bouge, effectivement, ça bouge à un niveau local, c'est-à-dire ça bouge en défaisant cette espèce d'articulation entre gouvernement national et puis gouvernement supranational. Et bon, et c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Oui, bon, il y a eu en Grèce un mouvement populaire, il y a même eu un soutien donné au gouvernement pour que finalement, bon, il aille à l'encontre de la volonté dite européenne. Bon, et puis bon, il l'a pas fait. Et voilà, on est devant ce fait, c'est-à-dire que je pense que effectivement il y a un mouvement possible, un changement possible à partir du moment où on se dit bon bah que voilà ce qu'on essaye d'imposer. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Bon, tant qu'il y aura pas, je dirais, un mouvement des égaux qui soit capable, disons, de vraiment de creuser sa propre volonté et de la transformer en une espèce de force qui dure, bon, on sera dans ces situations où, en gros, on a bon, des gouvernements un peu de gauche, un peu plus à gauche, quoi, à qui on délègue tous les espoirs démocratiques et qui bon, bah, se trouvent dans l'impasse.
Et vous, alors, vous sentez-vous, comme on disait autrefois, être un intellectuel engagé? Parce qu'on voit dans vos dernières publications que plus vous avancez, plus vous intéressez à l'art, à la poésie, au cinéma. Le cinéma a toujours été très important pour vous, mais vous avez publié un très beau livre sur Bellatar. Vous avez publié un livre récemment sur le poète Philippe Beck, etc. Est-ce qu'il y a chez vous la tentation de vous retirer du monde intellectuo-politique pour essayer d'en saisir justement peut-être les plus grandes beautés qui sont dans ce domaine-là de l'esthétique?
Disons que j'essaye de ne pas avoir trop de présence sur la scène intellectuelle ou médiatique parce que j'estime avoir dit à peu près ce que j'avais à dire, quoi,
et que vous continuez à penser.
Je continue à le penser, mais je veux dire que bon, ce que j'avais à dire, en gros, je l'ai dit, et en gros, bon, ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, avec la montée exponentielle du Front National, j'ai expliqué il y a 20 ans, j'ai dit voilà 7 ou 8 règles, je me souviens plus, pour développer les idéographistes en France. Bon, je peux dire que ce point de vue-là, mon ironie a été totalement validée, quoi. C'est-à-dire que bon, j'ai dit voilà cette manière par lesquelles bon, on est sûr d'assurer la montée du Front National, quoi. Alors effectivement, tout le monde a fait ce que je disais de faire, c'est-à-dire de ne pas faire.
Vous ne pouvez pas nous proposer des hypothèses pour contrer la montée du Front National?
Non, mais c'est pas le problème. La montée du Front National est en elle-même qu'un effet, ce qu'il faudrait, ce qu'il aurait fallu pouvoir contrer, mais bon, il faut bien dire que j'en étais incapable. C'est la montée de cette espèce d'idéologie au fond d'extrême droite venant de l'extrême gauche, pour le dire, pas d'extrême gauche, mais de la gauche, quoi. C'est-à-dire cette montée, effectivement, du fond d'une espèce de racisme vraiment porté par des intellectuels au nom des valeurs de la Révolution française ou que sais-je. Ça, effectivement, on était incapable. Bon, je me suis battu contre ça, mais bon, effectivement, je peux dire que j'ai été battu, quoi. Alors voilà, moi, ce que j'essaye, il y a un problème, c'est que je pense qu'il faut garder, le tonus pour pouvoir intervenir, quoi. Alors bon, pour garder le tonus, effectivement.
Ah bah vous l'avez, le tonus, hein.
Oui, mais je l'ai parce que je ne m'occupe pas tous les jours de lire tous les discours des intellectuels officiels pour me dire c'est dégoûtant, je vais réagir. Non, si je lis ça, je suis malade, je fais rien, quoi. Donc voilà, effectivement, je travaille sur la fiction, je travaille sur un certain nombre d'auteurs, de poètes, de cinéastes avec qui j'ai passé ma vie ou que je découvre. Là, vous faisiez allusion donc au livre que je viens de publier, le sillon du poème, donc en lisant Philippe Beck. Bon, il y a eu le livre sur Bellatar, il y a 2-3 ans. Voilà, je travaille sur la fiction, la fiction à la fois en littérature, dans le cinéma. C'est-à-dire, je travaille justement sur tous les moments où quelque chose se passe alors qu'il devrait rien se passer, ou bien ceux qui devraient être complètement oubliés, abandonnés, tout d'un coup ils apparaissent, ils prennent une force, une dignité sur l'écran, voilà. Et voilà, ça me donne la possibilité de parler, quoi. Si effectivement j'étais tous les jours à me dire, oh là là, il faut que je réponde aux derniers des trucs qui ont apparu sur Facebook ou dernier discours des intellectuels médiatiques, je serais malade. Et c'est toujours pareil, c'est-à-dire quand on entre dans un jeu, on finit par faire comme font tous les autres. J'ai décidé ça un jour, c'était l'époque de la nouvelle philosophie, est-ce que je vais répondre? Puis je me suis dit non, j'ai autre chose à faire. C'était l'époque où je travaillais sur le fond du menuisier Gony à la bibliothèque municipale de Saint-Denis. C'est ça que j'ai à faire, m'occuper de cette espèce de puissance, je dirais, de rupture, de nouveauté qui est là-dedans, et pas répondre à toutes ces vieilleries. Et c'est vrai que les vieilleries se reproduisent, mais en même temps, si on veut lutter contre, il faut travailler sur le nouveau, sur le fort, partout où il existe. Et je trouve que le fort et le nouveau, il est toujours égalitaire. J'y peux rien, mais c'est comme ça.
Merci beaucoup, Jacques Rancière. Merci pour ce que vous êtes et merci pour ce que vous écrivez. Donc, je rappelle les titres des derniers livres. Aesthésie, scène du régime esthétique de l'art aux éditions Galilée. Le sillon du poème en lisant Philippe Beck aux éditions Nous. Et figure de l'histoire aux presses universitaires de France. Merci à l'équipe de Hors-Champ, merci à Jehan, Richard Dufour, Corinne Amar, Élodie Royer, Samuel Bernard et Didier Lagarde. Vous écoutez France Culture, bonne fin de soirée.